Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on ne vous promet pas la Lune, on vous promet le Soleil. Ce matin, on parle d'un projet un peu étrange. Étrange parce qu'en fait, on en parle peu. Il apparaît assez rarement dans les médias, beaucoup moins en tout cas que la plupart des autres sujets qui concernent le nucléaire. C'est ITER. ITER, c'est un projet qui remonte déjà à pas mal de temps, puisqu'il a été signé, c'est assez amusant d'ailleurs, en 1986, l'année de Tchernobyl. C'était un projet international dès le départ, donc de très grande envergure, de très grand prestige. Il y a eu après quelques péripéties autour de l'attribution du lieu. C'est la France qui a remporté le cadeau, c'est formidable. Et puis, depuis, finalement, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. On ne sait pas s'il y a des chercheurs qui planchent déjà dessus ou pas. On ne sait pas où en sont les travaux à Cadarache. Donc ce matin, on va essayer d'en savoir un petit peu plus et dans un premier temps, peut-être de revenir sur cette idée assez magique, il faut bien le dire, l'idée de la fusion qui consiste finalement à répliquer ce que fait le Soleil. Le Soleil sait le faire, pourquoi pas nous? Donc c'est ça qui est à l'origine et au cœur du projet. Comment est-ce que ça a pu naître dans des esprits de la fin du XXe siècle? Monique Senet, vous êtes physicienne, Raymond Senet également, vous avez longtemps travaillé, vous avez passé toute votre carrière dans le nucléaire, et d'ailleurs, cette idée de la fusion, vous la connaissiez déjà avant 1986?
On la connaissait avant 1986 parce que, en fait, la fusion, elle est née en même temps que la fission. Dans un cas, on éclate un noyau, dans l'autre cas, effectivement, on les colle. Et les deux processus produisent de l'énergie. Alors, le problème entre les deux, c'est un problème mathématique. En réalité, la fission, si vous la faites à petite énergie, vous pouvez aller à plus haute énergie sans problème. Ce n'est pas le cas de la fusion. La fusion, c'est un problème beaucoup plus compliqué. Et quand vous faites une machine à petite dimension, vous ne pouvez pas l'extrapoler aux grandes. Là, ce que vous avez besoin, parce que la taille de la fusion, c'est ça. Le problème, oui, on dit ça se fait dans le Soleil. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas les mêmes réactions, mais ce n'est pas dramatique, ça. Et ça veut dire qu'on ne peut pas faire la fusion dans un bol. Du moins, la fusion qu'on veut faire. Parce que le problème, la fusion, on sait faire, noyau par noyau. Mais ça, ce n'est pas entretenu. Ce n'est pas ce que vous avez besoin pour chauffer une maison, ce n'est pas ce que vous avez besoin pour faire de l'électricité. Ça n'a aucun rapport. On peut le comparer, par exemple, si vous comparez la fission avec ses déchets. Vous dites, ah, mais je vais pouvoir faire ceci, Oui, mais pas quand c'est des tonnes. Le problème, c'est de passer du laboratoire au public.
Donc, vous dites que c'est un problème mathématique, Monique Senet, c'est aussi un problème, finalement, de maçonnerie. C'est-à-dire qu'il faudrait, si je vous comprends bien, construire un palace pour arriver à chauffer une petite niche.
Absolument, parce que de toute façon, il est exact que c'est... En plus, par rapport à la fission, les matériaux sont encore pires. Parce que les matériaux doivent résister à la température, au magnétisme, aux neutrons, enfin à tout. Et là, on tombe dans une équation de matériaux qui n'est pas encore résolu, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on en parle si peu, parce qu'on est encore en train de faire des expériences sur les quelques appareils qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné en fusion entretenue. Hein. Ils ont fonctionné par bouffée, c'est tout. Et sur ça, on essaye effectivement de tester les matériaux, on essaye de tester un certain... disons, les éléments de l'équation qui permettraient de faire un appareil qui donnerait de l'énergie plus qu'une milliseconde.
Vous en avez fait, vous, de la fusion, Raymond Senet?
On peut appeler ça avoir fait de la fusion. Pendant des années, un des moyens de produire des particules, et en particulier des neutrons de 14 MeV, qui était ce qu'on savait faire de plus énergétique, ça consistait à envoyer des atomes de deutérium sur une cible de tritium. Il suffisait de les accélérer à 150 kilo-électronvolts, 1 kilovolt plus exactement, et ça produisait des neutrons. La réaction de fusion, elle se faisait au coup par coup. Tous les générateurs de neutrons qu'on fonctionnait pendant la fin des années 50 et les années 60, était basé là-dessus. Et il y a encore des machines basées sur ces principes-là qui fonctionnent aujourd'hui pour produire des neutrons, pour étalonner, pour faire des quantités de choses.
Donc, mais pas pour faire de l'énergie.
Mais pas pour faire de l'énergie. La finalité n'est pas de faire de l'énergie, c'est de produire des neutrons de 14 MeV. C'est autre chose. Alors que là, on cherche à produire de l'énergie et à produire plus d'énergie que n'en consomme la machine pour pouvoir les produire.
C'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas. Et pour pouvoir réussir à avoir une machine dont le bilan serait positif, il faut atteindre une certaine dimension critique au-dessus de laquelle ça peut marcher. Alors, ce que disait Monique à l'instant sur les problèmes que l'on rencontre quand on montre en dimension, c'est qu'à petite dimension, on arrive à régler les problèmes. On est content, on va construire une machine qui va être deux fois plus grosse. Et à ce moment-là, il y a des tout petits effets qui gênaient personne, des petites perturbations qui gênaient personne au niveau en dessous, qui commencent à devenir extrêmement importantes et qui pollue complètement le fonctionnement de la machine. Alors on va passer 20 ans, 30 ans, c'est ce qui se passait actuellement. On aura passé 20 ans, 30 ans pour comprendre et remédier à ces petits défauts. On est heureux, on passe à l'étage au-dessus et là on se casse la figure à nouveau. Parce qu'il y a autre chose qui ne marche pas.
Mais attendez, vous dites on passe 20 ans, 30 ans, mais vous avez travaillé dans les années 50, 60, c'est-à-dire il y a maintenant très longtemps. Donc on a eu le temps d'avancer, on a eu le temps, c'est même pour ça j'imagine qu'en 86... des États aussi différents et importants que les États-Unis, la Chine, l'Union soviétique à l'époque, la France, l'Union européenne, bientôt rejoints par la Corée du Sud, le Japon, ont eu l'idée et la volonté d'avancer, puisque vous aviez déjà jeté les bases. Grâce à votre travail, on pouvait aller plus loin.
En fait, jeter les bases, oui et non. En fait, ce sont des choses qui sont travaillées depuis des années. Je me souviens, étant tout jeune rentré dans le laboratoire de Francis Perrin au Collège de France, en 59, avoir eu un séminaire fait par le professeur Magnan qui nous disait où en étaient les travaux à cette époque-là. Et on promettait déjà de pouvoir produire de l'électricité et de raser gratis dans les 10 ans qui venaient. Hein? Et c'est ce qu'on dit de 10 ans en 10 ans. On continue à faire les mêmes promesses.
Oui, mais ma question, c'est où en sommes-nous aujourd'hui, Monique Senet ?
Tristement, on n'a pas avancé, parce qu'on sait faire la fusion. Le problème, c'est de l'entretenir. Et c'est là que le bât blesse, parce qu'on a beau concevoir une machine, c'est comme ce que disait Raymond, on conçoit la machine à un certain niveau d'énergie, et on passe sur un certain nombre de problèmes. On arrive à, disons, on a trois paramètres qu'on doit ajuster. On arrive à en ajuster un. Les deux autres fonctionnent plus ou moins. Et on se dit, bon, je vais passer à l'étage supérieur, puisque j'ai réussi à obtenir la densité qu'il me faut. Mais bon, j'ai pas la température, mais je vais y arriver quand même. Et puis, j'ai pas le problème de le dernier problème, le temps que ça va durer. Donc, alors, on fait donc l'effort de faire ça. Et là, ce qu'on avait réussi à faire, la densité par exemple, ou la température, ça marche plus. Ça marche plus, le faisceau disons, ne marche plus, il va pas dans le sens qu'on veut, il arrive pas à se densifier. On n'y arrive pas. Alors on recommence. Donc on remet au point le fameux facteur, et puis on n'a quand même pas réussi à obtenir ce qu'on voulait. Et c'est le problème là, ils savent à peu près la densité, etc. Et ce qu'ils veulent voir, c'est s'ils sont capables de tenir 10 minutes ou 5 minutes, enfin, un temps raisonnable.
Ils n'ont jamais tenu.
Ils n'y sont jamais parvenus. Ils espéraient avec le jet, ils espéraient avec Thor Supra, enfin, ils ont comme ça des petites machines. Mais
en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que depuis les années 50, c'est-à-dire depuis maintenant 60 ans et plus, on a un jongleur avec trois balles qui n'a jamais réussi à garder les trois balles en l'air. Il y en a toujours une qui se casse la figure, quoi. C'est
ah
ça?
Oui, absolument.
Absolument. Exactement. Ça, la comparaison est parfaite. On n'arrive pas. On est avec les balles et puis, ah, pouf.
Alors, est-ce que ITER, projet abondamment doté, et il faudrait parler de ça, est-ce qu'ITER va permettre d'aller plus loin? Est-ce qu'en y mettant le prix, on va pouvoir y arriver? Et je voudrais vraiment que vous me parliez aussi de cette facture, mais peut-être d'abord l'aspect physique. Raymond Sonnet.
Bien, les alarmes que l'on a pu avoir avant même qu'ITER soit construit, c'est ce qui avait été souligné par un certain nombre de physiciens, c'était les problèmes des disruptions, c'est-à-dire qu'on arrive à des caractéristiques de plasma qui font qu'à un certain moment, sans qu'on sache trop pourquoi d'ailleurs, il y a une perte de stabilité, mais d'un seul coup, ça va percuter la paroi, et à ce moment-là, ça volatilise la zone de la paroi, ça fait un gros trou. Bon, c'est assez désagréable en soi. Et ces problèmes sont en cours d'étude. Il y a des solutions qui sont plus ou moins envisagées. Ça. Mais tout ça, ça va nécessiter de faire des essais auparavant pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Quand Monique parlait tout à l'heure des matériaux, faut se dire une chose, c'est que des particules chargées électriquement, on les fait tourner dans l'anneau. Et plus elle monte en température, et pour un rayon donné, puisque la machine ne s'agrandit pas au fur et à mesure, hein, plus ces particules, elles rayonnent. Et ces rayonnements...
Extrêmement radioactifs, donc.
C'est des gammas, c'est des photons de très haute énergie. Et ces gammas, ces photons, vont avoir comme caractéristique, c'est d'arriver sur la paroi. Et ils font à ce moment-là ce qu'on appelle la pulsvérisation cathodique, c'est-à-dire qu'ils arrachent tout ce qu'ils veulent. Et on va perdre de l'épaisseur de cette paroi, au fur et à mesure que ça va fonctionner, et plus on montera en température, plus on perdra. Quand on monte en température, donc on augmente la vitesse, et plus on va injecter d'énergie pour augmenter cette vitesse, plus on va rayonner. Et on va arriver à un moment où on perdra en rayonnement autant qu'on a injecté dedans pour augmenter la vitesse. Donc on a une limite, on n'ira pas plus loin.
Monique Sonnet.
Le problème, cet acier qui entoure ce faisceau, enfin qui permet justement de l'avoir, cet acier est très compliqué. Et en particulier, il y avait dans les années 85-86 des études qui avaient été faites et on s'était aperçu que pour pouvoir fournir en énergie les États-Unis, en remplaçant les réacteurs à fission par des réacteurs à fusion, c'était vraiment hypothétique parce qu'on n'a encore pas prévu comment on allait faire, il fallait avoir des aciers au niobium qui utilisait tout le niobium de la Terre. Et en plus, ça voulait dire que vous aviez une ou deux machines. C'est-à-dire que pour pouvoir fournir tout le terrain, en fait, vous aviez des points vraiment très sensibles, parce que avoir des gros machins comme ça sur un territoire, et c'est encore pire maintenant, c'est voué à une attaque terroriste très facilement, puisqu'on ne peut pas les protéger, etc. Et en plus, quand ça tombe en panne, ça veut dire que la moitié du territoire est dans le noir, ne peut plus rien faire, rien ne marche.
Mais non seulement ça, mais ça veut dire qu'on ne peut plus remplacer, puisque vous dites que tout le niobium a été utilisé.
Alors ça, c'est le gros problème. C'est parce que vous avez donc ces parois en métal, et ces parois en métal... Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, quand vous faites le calcul, quand vous regardez la façon, elles diminuent, leur épaisseur diminue. Mais il y a un moment où vous ne pouvez plus les laisser. Donc, ce qui est dit, c'est que tous les ans, vous remplacez à peu près un quart, un cinquième de votre paroi. Et le gros problème qui continue à rester, c'est la stabilisation de ce plasma. Et la stabilisation de ce plasma, on s'est aperçu qu'elle était dominée par la théorie du chaos. Et que dans ces conditions-là, eh bien, on aura des problèmes parce qu'on a, bon, c'est les problèmes, le faisceau échappe et à ce moment-là, il va percuter la paroi et il fait un trou. Et quant aux multiples aimants supra, je ne peux pas donner d'avis, mais je rappelle qu'au niveau du CERN, le fameux centre qui s'occupe, lui, d'accélérateur, le dernier truc qu'ils ont eu avec leur grand accélérateur, c'est de ne pas avoir vérifié suffisamment, d'une façon suffisamment précise, leurs aimants, Et ils ont eu effectivement une explosion dans les aimants qui a, disons, cassé un quart du faisceau. Et il a fallu tout refaire. Alors, pour ce qui est de la fusion, j'espère que ça leur servira de leçon.
Alors justement, je reprends la question que je vous posais tout à l'heure. C'est celle du coût de cette entreprise. Parce que tout de même, quand on vous écoute, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes absolument à tous les étages. À toutes les étapes du travail, on est très, 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 très loin d'avoir commencé à trouver une amorce de solution pour les innombrables problèmes qui se posent. Vous avez parlé du niobium, il y a également le problème du tritium, qui est en très faible quantité également sur la planète et en plus qui est extraordinairement difficile à confiner. Il y a des problèmes absolument partout. Donc, combien est-ce que tout ça coûte ? Qui, aujourd'hui, travaille là-dedans ? Puisque, quand même, ce qui est assez curieux aussi, Monique et Raymond Séné, c'est qu'il y a un assez large consensus, même chez les pronucléaires, pour dire que c'est un projet assez dément. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, des chercheurs travaillent ? Est-ce que vous avez le sentiment que ça va avancer ? Parce que, tout de même, je vous rappelle, il y a une urgence. C'est la fin des énergies fossiles, c'est le changement climatique, c'est la transition énergétique, dont on parle énormément en France aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut escompter que ITER va réussir à nous aider à résoudre tous ces problèmes-là ? À quelle échéance et à quel coût ? Raymond Séné.
Résoudre quel problème ? Parce que la résolution d'un problème qui est celui de production, de fournir de l'énergie, hein, mais il faut regarder qu'est-ce qu'on va payer comme ennui par derrière. Parce que qu'est-ce qui est mis en avant comme différence entre la fission actuelle, les réacteurs actuels, et la fusion ? On dit, oh, les réacteurs actuels, ça produit des déchets, et on ne sait pas quoi en faire. La fusion, c'est merveilleux, ça n'en fait pas, c'est fou. La fusion va créer aussi des déchets, ils n'auront pas les mêmes durées de vie, mais ils auront des activités absolument énormes, et on va avoir des problèmes de déchets totalement ingérables aussi. Donc, c'est la peste contre le choléra. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que l'idée de passer de la fission à la fusion, ça permet de dire « Oh, ben, les énergies renouvelables, c'est pas la peine, on peut s'en passer. » Et ça, c'est un faux débat. C'est une mauvaise analyse du problème parce qu'on n'ira pas plus loin. C'est pas possible.
Monique Senet.
Sur la question des coûts, le gros problème, il est là. C'est que même pour la fission, on ne sait pas bien combien ça coûte. Mais pour la fusion, au point de vue recherche, c'est très cher. Ça utilise un certain nombre de physiciens, mais pas tant que ça. Et puis, ça...
Ça utilise, d'après ce que j'ai lu, la moitié du budget de recherche et développement sur les énergies de l'Europe.
Alors, que ça utilise la moitié du budget de recherche, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ça n'utilise pas de personnes vraiment pour travailler là-dessus. C'est ça le gros problème. C'est qu'il n'y a pas d'adéquation entre les deux. Et puis, le gros problème de l'énergie, c'est qu'on ne fait jamais l'analyse de ce qu'on a besoin d'énergie, en fait. Parce qu'il faut partir, en fait, des besoins. Il faut regarder un petit peu. Parce que faire de l'électricité pour l'électricité, ce qu'on a fait quand même pendant un petit moment. Maintenant, évidemment, on arrive, à une production qui décroît un peu parce que les réacteurs ont vieilli et ont quelques petits problèmes de fonctionnement. Mais tout de même, on a réussi à faire que la France soit tellement dépendante de l'électricité que si, par hasard, vous arrêtez, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, c'est quand même un problème. Mais ce qui est fondamental, c'est que si vous remplacez actuellement, et ça, c'est absolument pas prévu, de toute façon, dans l'état actuel des choses, la seule chose qui est prévue par EDF et qui semble malheureusement être pris en charge par le gouvernement, si ce n'est pas pris en charge par l'autorité de sûreté, c'est le fonctionnement plus longtemps de ces fameux réacteurs. Ces fameux réacteurs ont été conçus il y a 40-50 ans pour fonctionner une quarantaine d'années. Et ça, c'était ce qu'on connaissait en métallurgie à l'époque. La métallurgie n'a pas fait beaucoup de progrès. Et elle fait des progrès en regardant comment les choses se passent. Et le problème, c'est qu'actuellement, on sait qu'il y a des problèmes. Simplement, on n'arrive pas à les caractériser. Et comment va réagir un acier sous irradiation prolongée, eh bien...
Qui est-ce qui se passerait dans le cas d'ITER?
Ça se passera de toute façon pour ITER, en pire, parce que c'est même des 14 MeV, c'est-à-dire c'est nettement plus énergique, c'est en plus sous magnétisme et tout, donc les mouvements sont différents à l'intérieur des cristaux de matériaux, quoi. Et donc, l'évolution n'est pas facile à faire, et c'est la même chose pour la fission.
Donc quand même, ce qui est très clair quand on vous écoute, c'est que même si ITER a été présenté comme un projet unique au sein du monde de l'univers nucléaire, unique parce que c'était le seul à faire la fusion contre tous les autres qui font de la fission, unique parce que c'était le seul à ne pas produire de déchets, on s'aperçoit qu'il en produit, celui qui allait produire énormément d'énergie très abondante et quasiment gratuite comme celle du soleil, on s'aperçoit que c'est absolument faux, celui qui allait susciter des vocations et employer les meilleurs physiciens, les plus brillants, on s'aperçoit que c'est pas exactement le cas, malheureusement, comme dans tout le reste du monde nucléaire aussi, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est pas les plus performants qui sont dans ces domaines-là. Peut-être quand même ce qui est un peu curieux et dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, parce que là, on reconnaît quand même énormément la manière française d'aborder le nucléaire, une façon à la fois très volontariste, assez centralisée et qui refuse de considérer les petits à côté, les petits problèmes. Mais il se trouve qu'ITER, c'est quand même un projet international, on l'a dit, et international, dans lequel les autres pays ont un certain rôle, même si c'est vrai, la France apporte à elle seule 30% du budget, le reste de l'Union européenne 20%, et les autres pays, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, etc., un peu moins de 10% chacun. Il y a 6 pays qui apportent chacun un peu moins de 10%. Donc, cet aspect international, est-ce que tout de même, il ne transforme pas un peu la donne, Raymond Sonnet ?
Il transforme la donne en ce sens que chaque pays demande à avoir un nombre de ses ressortissants proportionnel à sa participation financière. Hein. Donc ça, on l'a connu sur le CERN, c'est une chose tout à fait, je dirais, patente, que par exemple, en tant que physicien membre personnel du CERN, on va en avoir moins que d'anglais ou d'allemand ou d'italien, parce que on a beaucoup de Français qui sont là, comme pompiers, comme grutiers, qui habitent dans la région et qui sont Français, et qui comptent chacun pour une personne de nationalité française. Alors là, on va être dans la même configuration, on va avoir du personnel sur place, on va avoir des agents techniques, des gens qui seront des Français parce qu'ils habitent sur place, et ça va compter à chaque fois pour une personne. Je pense que le nombre de physiciens français qui ne seront pas au prorata du financement de la France, mais sera ramené au nombre total de gens.
Vous parlez du fonctionnement final. Tout à l'heure, Monique Sonnet, vous disiez qu'il y avait finalement très peu de chercheurs qui travaillaient au sein d'ITER. C'est quand même assez curieux. On en est aujourd'hui, je crois, à 17 milliards d'euros qui ont été dépensés. On en est toujours à la phase de construction et il n'y a pas encore véritablement de recherche poussée.
Il y a effectivement comme recherche, c'est surtout des calculs. Et puis, il y a effectivement des recherches qui sont menées par les physiciens qui sont sur le JET, qui est en Angleterre, et puis Tor Supra, qui est à Cadarache. Et là, effectivement, ils essayent de faire quelques essais de matériaux, etc. Mais c'est pas si simple, hein, parce que c'est quand même un appareil qui fait aussi de la fusion. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces appareils. Maintenant, en ce qui concerne justement le fonctionnement d'un appareil qui est, disons, international, puisque c'est ce qu'il va faire, et dans l'état actuel des choses, il faut se rappeler que quand même, la tête pensante, elle est à Garmisch, en Allemagne. Elle n'est pas à Cadarache. À Cadarache, c'est la tête pensante pour le béton, pour éventuellement l'assemblage d'un certain nombre de choses. Et c'est quand même le problème d'avoir réussi dans l'ensemble de la recherche française à tirer une somme d'argent aussi importante qui obère beaucoup d'autres, la biologie, enfin des tas d'autres facettes de la recherche, c'est vraiment un problème. Parce que ça ne va pas rendre en avancée ce que ça va nous donner comme problème. Parce que là, tout le monde est bien, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais ce n'est pas vrai. Si vous faites du tritium, parce que le tritium, il ne va pas vous être sous vos pieds, hein, il faut quand même l'extraire. Bon, ça veut dire que vous allez avoir un endroit que vous allez avoir du mal à empêcher d'avoir du tritium qui sort, parce que le tritium, c'est l'hydrogène. Or, l'hydrogène, on ne sait pas le reprendre, puisque c'est le gaz dont on fait n'importe quoi. Et on a beaucoup de problèmes avec ça. Alors, on a du problème avec ça, on a du problème avec le fait qu'on va avoir des parties contaminées, mais pas seulement. Honnêtement, le bilan n'est pas fait. Alors, qu'on fasse des recherches, moi, je veux bien, mais la fusion, si on était raisonnable, on se rendrait compte que la fusion, bon, elle est bien dans les étoiles, elle est bien justement dans le Soleil. Eh bien, utilisons le Soleil, utilisons ce qu'il nous envoie, puisque lui, il existe. Il est là. De toute façon, il bombarde la Terre. Il n'y a rien à faire. Donc, autant essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette énergie qui nous arrive sur chaque centimètre carré de notre planète et qui n'oblige pas à faire des endroits gigantesques. Parce que comment on va faire? Enfin, au milieu de l'Afrique, on va mettre un machin comme ça. Au milieu de l'Inde aussi. Mais ça va servir à rien. Et on va mettre des tuyaux, parce que l'énergie, vous allez pas vous pouvez pas la consommer à la place où vous l'avez faite. Donc, ça veut dire que vraiment, on est en train de rêver à quelque chose qui ne va vraiment pas apporter une solution aux besoins de l'énergie. Et qui, en plus, coûte très cher. Et bon, dans 100 ans, ça m'étonnerait qu'il y ait encore des gens qui soient très intéressés par ce truc qui ne veut pas marcher, qui ne veut pas ceci, qui ne veut pas cela. C'est ça. Mais par contre, on sera submergé par les problèmes. Comment on fait pour résoudre avec une installation énorme qui a marchoté, donc qui a des trous, qui a ceci, qui a cela? Je vois d'ici le démantèlement dans 50-100 ans. De toute façon, on l'aura une fois de plus pour les générations futures. Mais ça fait longtemps qu'on parle des générations futures, puisqu'on a commencé tout ça dans les années 50, 46, enfin, quand on a commencé le commissariat à l'énergie atomique et qui maintenant s'est rajouté les énergies alternatives. Oui, ben, des générations, ça fait déjà 3-4 générations hein, qui chaque fois se retrouvent assises sur les déchets. Et qu'est-ce que j'en fais? Ah ben oui, j'essaye de résoudre parce que, ah merde, c'est tout pollué, c'est tout embêtant, c'est tout... voilà. Non mais, faut arrêter.
Un quota de travailleurs français, disiez-vous, Raymond Senet? Un quota qui irait plutôt dans les métiers du bâtiment, de la maçonnerie, de la plomberie. Surprise, quand on se rapproche du site où se construit ITER, c'est une autre chanson qu'on entend. Christian Ribaud, vous travaillez, vous, sur ce site d'ITER. Vous êtes délégué CGT à Areva, Cadarache. Et ce lieu, vous pouvez nous le décrire, parce qu'en fait, peu de gens le connaissent. C'est interdit d'y entrer.
Ah oui, c'est interdit d'y entrer. Alors, j'y travaille pas. J'ai travaillé sur Cadarache pendant 8 ans. J'ai fini ma carrière. Maintenant, je suis en retraite. Mais donc, c'est très difficile d'accéder à ITER. Même les organisations syndicales, on n'a pas du tout d'accès. Après, on peut visiter le site, parce qu'il y a un site qui peut permettre des visites. Ça donne une idée de l'importance du chantier, puisqu'aujourd'hui, c'est le plus grand chantier en Europe.
Ça ressemble à quoi? Quand vous dites le plus grand chantier d'Europe, vous pouvez nous donner une image qui nous permette de nous représenter ce que c'est?
Bon, on voit de loin des bâtiments qui ont été construits. On sait que l'endroit où va être la machine, c'est très profond. Mais sinon, on n'a pas de détails sur comment c'est conçu, quoi.
Alain Champarnaud, vous êtes entré parce que vous êtes également délégué CGT, mais vous faites aussi partie de la CLI, la Commission locale d'information d'ITER.
Oui, tout à fait. Donc, cette commission locale d'information, sous-entendu, c'est du public, est composée d'élus, pour moitié à peu près, d'élus de la région, et pour une autre moitié d'associations environnement et des organisations syndicales, puis des membres nommés experts. Donc cette CLI a été rendue obligatoire pour toutes les installations nucléaires. Alors c'est des suites de l'accident d'AZF de Toulouse qui a conduit à faire la loi Bachelot pour toutes les entreprises, les industries dangereuses, sauf nucléaire. Et puis derrière, il y a eu la loi TSN qui est un peu le pendant de la loi Bachelot pour les installations nucléaires. Donc du coup, cette commission locale d'information est là pour faire respecter la transparence aux propriétaires.
Alors vous pouvez nous faire regarder à travers cette vitre d'une transparence cristalline pour nous décrire un peu le lieu ?
Bon, ce qui est aujourd'hui construit, c'est simplement le siège, donc les bureaux qui accueillent les scientifiques de la planète, spécialistes en fusion. Et puis le reste, c'est un vaste chantier qui aujourd'hui ressemble à une grande plateforme de 400 mètres de large par 1 km de long, sur laquelle est installé quelques maintenant bâtiments qui vont permettre de construire des équipements et d'un grand trou, une excavation dans le terrain de 25 mètres de profondeur, je crois, qui actuellement est en train de pousser. Il y a eu donc dans cette excavation la mise en place de entre 300 et 400 plots dits antisismiques. Donc ce sont des poteaux sur lesquels on a posé des coussins et pour amortir les vibrations. Et puis on est en train de couler le béton du plancher du bâtiment qui va accueillir ce tokamak. Et actuellement, ces travaux occupent 250 à peu près travailleurs. Et une fois ce plancher par contre coulé, les besoins en personnel vont grandir puisqu'on va pouvoir monter des murs, construire les autres bâtiments attenants qui sont au nombre de 38 bâtiments en tout, qui vont être construits sur cette plateforme. La prévision, c'est que dès la fin de cette année, avec un an de retard, un flot de salariés va arriver dans notre région pour aller travailler sur le chantier ITER avec un pic annoncé de 3500 salariés en fin 2017 maintenant.
Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, Samuel Autexier, vous qui avez monté un comité de chômeurs depuis un an environ. C'est la fin du non-emploi dans la région ?
Alors, ça a été présenté comme ça pendant très longtemps et effectivement, c'est en réaction au fait que les politiques qui ont installé ITER nous ont promis de l'emploi local. Et il se trouve que malheureusement, sur le site Pôle emploi et dans ce qu'on sait, il n'y a pratiquement aucune offre d'emploi. Il y a deux formations qui vont être proposées par les employeurs, donc Vinci, qui a été choisi avec un consortium de trois autres grosses entreprises, Vinci, Ferrovial, Razelbeck, qui ont comme particularité d'utiliser essentiellement de la main-d'œuvre intérimaire. Et ce qui nous occupe, nous, c'est de la main-d'œuvre intérimaire sous contrat détaché, qui sont des personnes qui viennent d'autres pays. Et c'est uniquement pour des raisons de profit de ces entreprises que ces personnes sont salariées. Donc c'est ça qu'on veut dénoncer. Donc sur le plan strictement local, il n'y a pas d'emploi dans le bâtiment, voire il y a même des craintes de certaines entreprises, petites entreprises, qui sont écartées du chantier et qui donc vont couler. Alors qu'à côté, il y a beaucoup de travail à faire.
Et qu'on parle de pic d'emploi et de nécessité d'augmenter le nombre de travailleurs.
Oui, bien sûr, on parle de ça. Le secrétaire de la préfecture, M. Barsac, qui officie à la dernière CLI où on est intervenu, s'est félicité de 2500 invitations envoyées à des chômeurs. C'est quand même très peu. Sur le bassin de Manosque, il y a déjà 5000 chômeurs, dont on estime à 1500 à peu près le nombre de chômeurs du bâtiment. Sur la région, il y a 400 000 chômeurs et donc 60 000 personnes qui sont disponibles pour travailler dans le bâtiment. Quand on envoie 2500 invités et qu'on s'en réjouit au point qu'on a l'impression que tous les services y ont travaillé pendant 6 mois, je trouve que c'est quand même un peu exagéré.
Alors, on s'aperçoit tout de suite que le recrutement est international. De fait, il y a même un « welcome office » pour les travailleurs qui viennent de partout et leurs familles. Christian Ribaud, vous vous en occupez, vous, de ce welcome office ?
Non, pas du tout. On s'occupe pas de ça. Nous, le Welcome Office, il est certainement pas fait pour les victimes du dumping social qui viendront travailler sur ITER et qui construiront le chantier et la machine, quoi. Je pense que ça s'adresse plutôt aux chercheurs et aux gens comme ça. Nous, notre préoccupation, c'est que les travailleurs qui viennent sur les chantiers, ils doivent être traités à égalité. C'est un chantier français qui doit répondre aux normes du travail français. Ça a été précisé par plusieurs personnalités. Mais nous, on avait vu qu'effectivement, le dumping social était très important parce qu'on a découvert dans un guide du logement qui avait été présenté par M. Barsac, donc un fonctionnaire de l'État, qui disait que l'organisation du travail, ça sera des cascades en sous-traitance, et ça sera des gens qui viendront dans ces conditions-là. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, on a commencé à se battre là-dessus, parce que nous, notre principe, c'est de faire respecter l'égalité, et qu'on a trouvé en 2010, sur un autre chantier de Cadarache, le chantier RJH, une dizaine de Portugais qui étaient traités pratiquement comme des esclaves. En gros, ils crevaient de faim, ils n'avaient rien à bouffer. Et notre action a été de les aider à se nourrir déjà, de les conseiller et de faire une action pour que cette situation cesse.
C'était un cas particulier, là vous dites que c'était un autre chantier, c'était Cadarache, donc là on ne parle pas d'ITER.
Alors effectivement on ne parle pas d'ITER, sauf que ces principes-là, ils sont mis partout, sur tous les grands chantiers, surtout si c'est l'État qui paye.
Alors décrivez-les-nous, ces principes.
Le principe c'est de faire venir des gens pratiquement comme des esclaves, dans des situations de recrutement qui sont par des sociétés d'intérimaires très floues, et qui arrivent sur des chantiers sans rien du tout. Les gars là qu'on avait, ils n'étaient pas payés.
Pas payés ?
Pas payés, mais ça faisait un mois et demi qu'ils n'avaient rien à manger. Parce qu'ils arrivent d'un autre pays, de Guinée-Bissau, avec des passeports portugais. Hein. Sous-entendu, sous le régime de la réglementation européenne des travailleurs transeuropéens, personne n'interdit à n'importe qui d'aller travailler en Europe. Sauf que là, c'est un recrutement qui est organisé par des patrons, et c'est de la mafia, quoi. Et le but de ces patrons, c'est de surtout ne pas cotiser aux caisses de solidarité française, la Sécu, la retraite, le 1% logement, etc., etc. Et donc, ça porte atteinte aux travailleurs parce que c'est des victimes, mais ça porte atteinte à la société civile en général. Et c'est ce que Savary a dit peu de temps après dans les travaux qu'ils ont faits au Sénat.
Député socialiste qui avait fait une commission justement sur les conditions de travail.
Donc ces travaux-là ont débouché sur ce que nous on a constaté depuis très longtemps sur les chantiers, quoi.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, Christian Ribaud, c'est que vous dites les uns et les autres, on n'a pas accès aux informations, on n'a pas accès aux données, mais ces travailleurs, certes, ils travaillent dans la journée dans un site qui est extrêmement difficile d'accès, mais le soir, ils sortent, ils sont dans les villages, ils habitent au milieu des autres habitants de la région.
Mais c'est effectivement très difficile de rentrer en contact avec eux. Alors, de toute façon, on s'est rendu compte à travers l'exemple des Portugais qu'on leur interdit de parler, et surtout si c'est des syndicalistes. Les patrons mettent en place une espèce d'omerta. Si, en gros, il y en a un qui ramène sa fraise, le lendemain, il n'est plus là. Si il y en a un qui s'est plaint ou qui est repéré par quelque chose, un inspecteur du travail ou n'importe quoi, le lendemain, il n'est plus là. Ils ont organisé une espèce d'omerta qui fait que les travailleurs sont dans l'impossibilité de décrire leurs conditions de travail et d'hébergement. Alors l'hébergement, effectivement, c'est un problème, mais on a énormément de mal à trouver, à situer où ils sont logés. On sait, par exemple, qu'en ce moment, il y en a qui sont logés à Sisteron. C'est loin. Ou à Digne.
C'est-à-dire un rayon de 70 km environ,
ouais,
c'est ça ?
Ouais. Donc c'est très difficile. Et on pense qu'ils ont des consignes très serrées, parce qu'une ou deux fois, on a essayé de suivre les minibus qui sortent du chantier, ils nous ont semés. Et Canal+ a fait un reportage là-dessus, ils ont montré exactement ce que nous on vit, c'est-à-dire qu'ils ont aussi suivi des minibus, ils avaient énormément de mal à les suivre, et quand ils sont arrivés à discuter avec les gens ne veulent pas parler. Parce qu'on leur a dit, s'il y a un problème, si vous ramenez votre science, vous retournerez chez vous. Donc eux, leur intérêt, eh ben, c'est de rester et puis d'avoir un peu de travail, même s'ils sont payés les Portugais 500 euros, puis les Espagnols 900 euros, etc. etc.
Ah, parce qu'en plus, les salaires, évidemment, varient d'une nationalité à l'autre.
On a, lors d'une distribution de tracts devant le chantier, c'était Alain qui avait interviewé des travailleurs, on voit une très nette différence de leur salaire.
Alors Alain Champarneau.
Oui, donc le 12 décembre dernier, jour où la CGT a quand même décidé d'informer à l'entrée du chantier les 200-300 salariés, le réflexe d'ITER a été de fermer, boucler les portes, donc d'interdire les travailleurs de rentrer sur travailler. Ils ont stocké sur un parking où on distribuait les tracts. Donc on a pu rencontrer là vraiment pendant une heure, on a pu parler quasiment à tout le monde. On a trouvé deux camionnettes de la société comme ça, une camionnette contenant des salariés espagnols qui nous disent ben voilà, nous on est espagnols et ben on gagne 970 euros. Ce qui, on n'a pas vérifié, mais il doit correspondre à un SMIG espagnol. Et puis la camionnette d'à côté, les camarades, eux, ils ont été obligés de parler portugais. Et les Portugais, eux, nous ont déclaré, nous, on a 400 euros. Et en même temps, de l'autre côté, dans la camionnette, les Espagnols disaient à nos camarades, mais c'est dégueulasse parce que les Portugais, ils nous piquent le boulot, ils travaillent pour moins que nous. Alors c'est tout un système qui est monté, c'est fait exprès. L'affaire des Portugais originaires de Guinée-Bissau, c'est un système, des systèmes machiavéliques où on met en concurrence les ouvriers. Et en Europe de l'Est, c'est la même chose. Il y a toute une hiérarchie. C'est-à-dire que là-haut, au nord, c'est les plus riches. Et au sud, les Bulgares et les Roumains sont les plus pauvres. Et vous pouvez descendre du nord au sud. Vous trouverez, si vous trouvez sur le chantier des gens originaires de tous ces pays, vous verrez que le Roumain est payé moins que, et le Bulgare moins que le Tchèque moins que le, etc., jusqu'à l'Ukrainien.
Samuel Autexier, c'est un peu comme ça que vous vivez les choses, vous aussi, les étrangers prennent le travail des Français, et plus ils sont du Sud, et plus ils sont de couleurs différentes, et plus ils prennent le travail.
Non, je crois pas. Je crois que c'est volontaire, c'est voulu et c'est dégueulasse. Et qu'effectivement, c'est dans un système politique ou dans une ambiance politique qui nous concerne tous, sur laquelle on veut réagir. Notre propos, il n'est pas qu'il n'y ait pas d'étrangers qui viennent ici, mais c'est qu'il y ait le droit français qui soit respecté. Par exemple, là, on voit qu'il y a deux atteintes au droit français qui sont évidentes, puisque s'il y a des salaires différents, c'est normalement pas possible sur ce chantier. Les premières réunions publiques de l'année dernière, on les a appelées ITER, un laboratoire social et scientifique expérimental de l'esclavage moderne. C'est-à-dire qu'on est effectivement à ITER dans un laboratoire. C'est-à-dire que quand on entend Valls dire qu'il veut démanteler le droit du travail, etc., eh bien, il a son laboratoire, c'est ITER, ou c'est d'autres chantiers comme ça. Et c'est là qu'ils vont effectivement faire les choses les plus dégueulasses qui soient, avec les gens, opposer les gens les uns contre les autres. C'est ça qui nous inquiète beaucoup, voilà. Parce que effectivement, le problème d'aller s'incruster dans la vie des gens en dehors de leur travail, c'est quand même délicat. Et quand on a vu donc le guide du logement, 18 camps de travailleurs. Alors on a eu un démenti de
Qu'est-ce que c'est que ce guide du logement ?
Le guide du logement, c'est 18 projets, campings, stades, pour accueillir des travailleurs du chantier ITER, qui a été fait.
Édité par qui ?
Par ITER.
C'est un guide de logement pour aider les entreprises à trouver des logements pour ses employés, comme la loi française le demande. Ils sont en grand déplacement, donc l'entrepreneur doit les loger.
Mais pourquoi est-ce que vous parlez de camps et de stades, Samuel Autexier ?
Pourquoi ? Parce que ce sont sur des camps et des stades que c'était prévu. Alors, quand je dis c'était, c'est qu'il y a certains projets qui se sont écroulés, mais sur les 18 propositions, il y avait notamment une proposition à Château-Arnoux qui proposait de façon très clair, très simple, de loger en bungalow de deux ou trois personnes, donc, mais jusqu'à 790 ouvriers, dans un camping, un ancien camping désaffecté pour des raisons de sécurité puisqu'il est inondable. L'aménagement consistait à mettre des bungalows. On appelle ces travailleurs des célibataires géographiques. Hein ? Ils sont sommés de venir sans leur famille, on est d'accord ? Et avec toute la notion de racisme dont on a parlé, c'est-à-dire, oui, bah, les Portugais, ils travaillent à moins. Bon, alors, maintenant, ça s'est déplacé. Aujourd'hui, c'est un camping à Manosque. On appelle ça un camping 3 étoiles. Effectivement, ils ont mis en place des bungalows. Ils vont recevoir des travailleurs, c'est sûr.
Et comment ils font pour payer leur hébergement avec les salaires que vous avez décrits, Christian Ribaud ?
Ben, ils sont obligés de payer. Je ne sais pas comment ils se débrouillent. C'était d'ailleurs pour ça qu'on a trouvé des gens qui étaient vraiment dans une panade noire, quoi. J'ai pas dit tout à l'heure, mais sur les exemples qu'on a des camarades portugais qu'on avait trouvés, on avait les bulletins de salaire et on avait les relevés d'heures. Il y a des relevés d'heures, ça allait de 58 heures à 70 heures.
Et puis, un autre point délicat, Christian Ribaud, c'est celui de la langue. Si c'est difficile de discuter avec eux, c'est peut-être aussi difficile de leur donner des consignes de sécurité pour la construction d'un bâtiment qui n'est quand même pas anodin.
Exactement. Nous, on a la problématique de rentrer en contact avec eux. Donc, il faut qu'on se débrouille pour trouver des gens qui traduisent, etc., etc. On écrit des tracts en plusieurs langues, donc c'est aussi difficile. Mais je pense qu'effectivement, quand on connaît les chantiers du nucléaire et quand on connaît comment fonctionnent ces immenses chantiers, que ça peut effectivement porter atteinte à la sûreté et à la sécurité, parce que les gens ne sont pas censés connaître toutes les dispositions de sécurité qui sont théoriquement sur ces chantiers. Par exemple, ne serait-ce que port un casque, port de... On a vu que les camarades qu'on avait là, en plus leur équipement personnel de sécurité, c'est-à-dire les godasses, les gants et le casque, et on leur avait retiré sur leur butin de salaire.
23 euros.
Combien ?
23 euros. Pour compléter un peu, Christian, enfin détailler, il vous parle de sécurité et sûreté. Effectivement, il y a deux facettes. Donc il y a d'abord la sécurité de ces travailleurs. Et donc quand on leur donne des consignes de sécurité pour le chantier, ils comprennent ou ils ne comprennent pas. Hein. Donc ça dépend de la langue qui est pratiquée. Alors à ITER, on a fait mieux qu'en France. Tout le monde parle anglais. Donc l'anglais étant plus parlé dans le monde, on peut s'imaginer que plus de travailleurs comprennent les consignes de sécurité. Et puis donc la deuxième facette, c'est qu'on construit, comme vous dites, pas n'importe quoi. C'est pas une usine de chocolat. Et donc là, il y a des règles de sûreté. Et on a un petit exemple, un truc qu'on connaît. Donc des Espagnols ont participé au ferraillage, qui est très très important, et ont reçu visiblement des ferrailles non recevables avec des défauts. Elles étaient lisses. Apparemment, elles avaient des parties lisses. Ils les ont montées. Hein. Alors on leur a demandé, on leur a dit de ferrailler, ils ont ferraillé. Et l'inspecteur ASN, Autorité Sûreté Nucléaire, le gendarme du nucléaire, indépendant, tout ça, qui, lors d'une inspection, a vu qu'il y avait des défauts. Ça a été vu, donc les choses ont été réparées. Mais on a appris dans le même temps, parce qu'on avait fait une petite distribution de tracts, c'était en mars ça. Et là, on a appris par des ouvriers espagnols que des collègues à eux avaient été virés. C'est-à-dire qu'ils ont dit à mes copains qui distribuaient, et ils nous ont expliqué que une équipe de chez eux avait été renvoyée du chantier. Voilà ce qu'on peut arriver à savoir, sauf que jamais on le prouvera. Et bon, l'ouvrier espagnol qui a parlé à la copine de ça, jamais il l'écrira.
Les uns et les autres, vous avez dit à plusieurs reprises qu'on était dans une entreprise de droit français. Il y a quand même un certain nombre de garde-fous en principe. Comment se fait-il qu'il s'applique si mal ou si peu, Christian Ribaud ?
Ben, je pense que c'est l'État qui a donné le tempo. Hein. L'État a refusé que le chantier Grand ITER soit labellisé Grand Chantier. Alors le label Grand Chantier, ce n'est pas la panacée, mais c'est quand même une réglementation qui s'applique aux employeurs et qui permet quand même, notamment au niveau des logements, au niveau des conditions d'hébergement, de vie, etc., etc., d'avoir un minimum de structure nécessaire à ça et d'avoir aussi des échanges avec les organisations syndicales, puisqu'il est théoriquement prévu d'organiser une instance de concertation sur les conditions du chantier, ce qui là n'existe pas. Donc après, on s'aperçoit qu'effectivement, l'inspection du travail, ils sont de bonne volonté, sauf qu'ils sont submergés. Et que la mission d'inspecteur du travail a quand même été modifiée par Sarkozy. Aujourd'hui, les inspecteurs du travail ne sont plus forcément des gendarmes qui sont censés mettre des amendes et mettre des sanctions, mais des conseilleurs.
D'autant qu'il n'y a plus de visites inopinées.
Alors effectivement, l'inspection du travail et l'URSSAF aura du mal à faire des visites inopinées, et puis c'est comme ça qu'on découvre un peu les loups qu'il y a dans les organisations du travail, parce que déjà l'URSSAF a signé une convention avec ITER où les visites de l'URSSAF sont conditionnées par un agenda très précis, qu'il faut prévenir 3 mois à l'avance, etc., etc. Et il faut que l'inspecteur qui vient, il parle anglais, parce que sur ITER, on parle anglais. Donc là, on est quand même un peu surpris qu'une entreprise ou une organisation, parce que ITER n'est pas une entreprise puisqu'elle n'est pas reconnue par l'URSSAF, elle n'est pas considérée comme un employeur. Donc que ces gens-là donnent des ordres à des fonctionnaires français que celui qui vient, il faut qu'il parle anglais. Aucun fonctionnaire français n'a l'obligation dans sa mission et dans son travail, de par son contrat, de parler anglais. Mais eux, ils exigent que les gens qui viendront s'adresser à eux parlent anglais. Donc ça, c'est quand même assez fort. Et pour l'inspecteur du travail, donc nous, on côtoie régulièrement l'inspection du travail sur Cadarache pour des multiples problèmes. On sait très bien que l'inspection du travail est complètement débordée. Donc le bassin d'emploi, de ce que disait alors Alain, le bassin d'emploi de Cadarache, c'est entre 4 et 6 000 personnes suivant les fluctuations. On y rajoute un chantier très complexe avec des multiplicités de sociétés, etc., etc., où il y aura en point 3 500 personnes. Mais on n'a pas dit on va mettre 4-5 inspecteurs du travail en plus. Donc, les services de l'État sont, à mon avis, incapables de faire quoi que ce soit. Mais je pense que c'est une volonté de l'État, parce qu'on est dans le libéralisme et que les discussions qu'on a eues avec le préfet qui était chargé d'organiser les chantiers ITER, on a bien senti que les contraintes qui seraient faites au patron étaient mal vues. Donc, il fallait lever au maximum les contraintes.
Et l'URSSAF ?
Et l'URSSAF, donc il y a eu une convention assez extraordinaire quand même de signer avec ITER. Donc ITER n'est pas un employeur reconnu par l'URSSAF. L'URSSAF a signé une convention d'agenda avec elle, donc qui interdit pratiquement les visites inopinées. Et l'URSSAF PACA, alors que les URSSAF étaient régionalisées à partir de 2014 et que cette convention a été signée en 2013. Et nous avons demandé au ministre d'annuler cette convention et nous n'avons pas de réponse. Et le ministre, à l'époque, c'était Sapin. Et nous n'avons pas de réponse. Donc, on voit que l'État est dans une collaboration un peu pour que tout ça se déroule, quoi. Ça peut choquer, mais je pense que le fond du problème, c'est ça. C'est que l'État ne met pas les moyens pour les contrôles et pour que ça se passe comme il faut. Parce que la volonté, c'est que ça se passe autrement. Autrement que ce qu'on connaît, nous, par rapport aux règles du travail. C'est une déréglementation complète.
Cette émission est maintenant terminée. Vous savez que vous pouvez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Et puis vous pouvez nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage Philippe Thibault, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.